Radio Okapi.
Nadine Poulantimba pour les journaux.
Au sommaire de ce journal, trois personnes blessées dans une attaque des milices Twa dans le groupement Lambo-Kilela dans la province du Tanganyika. Les assaillants seraient venus d'une localité située sous l'axe Kalemie-Nyunzu. Pendant ces temps, les Mbandaké ont manifesté tôt ce matin à travers la ville. Ils protestaient le retour annoncé du gouverneur de province Tony Bolamba. La revue de presse, le journal de sport et le dossier sont au menu de la seconde partie de ce journal. Nous serons à Lubumbashi pour parler de la profanation des cimetières dans la commune annexe. Bienvenue à tous. Et bonjour mesdames et messieurs, nous commençons ce journal par la province du Tanganyika. Trois personnes blessées par des flèches, dont le chef de groupement, c'est les bilans d'une attaque hier jeudi, dans le groupement Lambo-Kilela par une milice Twa. Le groupement Lambo-Kilela est situé à 130 km au nord-est de Kalemie, du côté de la localité de Bendera. Les assaillants seraient venus d'une localité située sur l'axe Kalemie-Nyunzu. L'autorité territoriale dit quant à elle attendre de réunir les informations avant de se prononcer. Le point avec Expedi Mwamba Mubi.
D'après le chef de groupement Lambo-Katenga, contacté au téléphone ce matin par Radio Okapi, son voisin, le groupement Lambo-Kilela, a été attaqué hier matin par une milice Twa. Bilan provisoire, trois personnes blessées par des flèches. Il s'agit du chef de groupement Lambo-Kilela lui-même. Il a reçu dans son corps pas moins de sept flèches tirées par les Twa. Il est en cours de transfert vers une formation médicale à Kalemie, précise notre source. Les deux autres blessés sont également des membres de la famille du chef de groupement Lambo-Kilela. Les assaillants seraient venus de la localité Kabulo, située à une cinquantaine de kilomètres de Kalemie, sur l'axe Kalemie-Nyunzu. Contacté, l'administrateur de territoire de Kalemie dit ne pas disposer de précisions pour l'instant. Kalemie, Expedi Mwamba Mubi, Radio Okapi.
Restons toujours dans ce chapitre insécurité, cette fois-ci dans la province de la Tchopo où plus de 5000 personnes habitant dans la forêt au-delà de la localité Balobé en territoire des Bafouassendé à environ 500 km à l'est de Kisangani ne se sont pas fait enrôler. Ces populations vivent dans cette région sous contrôle du chef Maïmaï Luc Yabili. La sonnette d'alarme est tirée par la société civile de Bafouassendé en ce moment où les opérations d'enrôlement des électeurs tendent vers la fin. Le point avec Dorcas Kankou.
Ces personnes non enrôlées sont regroupées dans des foyers miniers situés dans la forêt au-delà de Balobé. On les estime à plus de 5000 personnes selon le président de la société civile de Bafouassendé, Clément Aoi.
Nous de la société civile, nous lançons un appel vibrant aux autorités de la CENI, aux autorités du gouvernement d'enrôler ces gens pour répondre à leurs droits civiques. Ils sont là-bas, au-delà de Balobé, et qu'il y ait aussi la sécurité pour les agents électoraux. Nous pouvons estimer plus de 5000 qui ne sont pas encore enrôlés.
Le chef d'antenne de la CENI du territoire de Bafouassendé reconnaît le fait. Michel Mayoko évoque des soucis d'ordre sécuritaire dans cette partie de la province de la Tchopo.
On a connu de sérieux problèmes au moment de la cartographie parce que nos éléments, le préposé à la collecte des données, ont été prises en otage par les Maïmaï. On leur a ravi l'appareil GPS, le Touraya. Ces entités-là n'étaient pas prises en compte par la cartographie. Mais nous sommes en train de leur dire tout simplement de se déplacer, de suivre là où le centre d'inscription se trouve précisément à Balobé.
Pour la société civile, l'enrôlement de cette population pourrait facilement augmenter le nombre de sièges à la députation. Actuellement, la CENI dit avoir réalisé plus de 82% de ses prévisions à quelques jours de la clôture de cette opération. De Bafouassendé, Dorcas Kankou, au Radio Okapi.
Insécurité toujours, le Maïmaï Mazembe et le NDC Rénové s'accordent sur un cessez-le-feu. C'est les résultats des consultations organisées le 5 derniers jours au sud des Loubéro par une délégation conjointe Baraza Lawazé, Société Civile et le gouvernement provincial du Nord Kivu. Pendant presque tout le mois de juillet, les deux groupes se sont affrontés régulièrement, provoquant les déplacements des milliers d'habitants du sud des Loubéro et du groupement Ikobo dans le Walikale. Bernadette Nyangui nous en dit plus.
Arrivé le week-end dernier à Kirumba, 200 km au nord de Goma, cette délégation conjointe a d'abord rencontré les responsables des deux groupes Maï-Maï dans leurs bases respectives. Puis, il devait y avoir une mise en commun. Malheureusement, la tentative de réunir les deux groupes mercredi à Kirumba pour obtenir la signature d'un accord de cessez-le-feu a échoué. Le président du Baraza intercommunautaire du Nord Kivu dit toutefois garder espoir, Maître Fataki Luindi.
Déjà, c'était venu avec plus de 100 personnes armées. Et alors, les Mazembe ont estimé utile de se retirer. Ils ont confirmé le cessez-le-feu et que le retrait progressif des positions nouvellement conquises.
Le porte-parole des opérations Sokola 1 Sud dit que l'armée approuve cette démarche, mais reste en alerte, lieutenant Jules Ngongo.
Progresse dans cette direction. Nous allons aussi vivre cette démarche. Mais s'ils ne veulent pas déposer les armes, ils se rendent, nous allons imposer la force.
Rappelons qu'entre juin 2016 et début 2017, les deux groupes sont coalisés. Puis, durant le mois de juillet, il est rapporté plusieurs accrochages entre eux. Résultat, une vingtaine de personnes seront tuées parmi les civils à Kasuo, Kaeri, en territoire de l'Ubero et en groupe Maïkobo dans le Walikale, Goma, Bernardin Yangi Radio Kapi.
Je le disais au sommaire, de manifestations ont eu lieu depuis tôt ce matin à travers la ville de Mbandaka. La population protestait le retour annoncé du gouverneur de province Tony Bolamba. Les manifestants ont brûlé des pneus au croisement de principales artères de la ville pour exprimer leur mécontentement. La mairie de Mbandaka avait interdit la marche que la société civile et le parti politique, toutes tendances confondues, voulaient organiser ce vendredi. Des précisions avec Dominique Wolombi Mungapange.
Interdit de marcher pour manifester leur mécontentement au retour annoncé demain samedi à Mbandaka du gouverneur de province Tony Bolamba, les manifestants ont adopté une autre stratégie. Ils ont brûlé tôt ce matin des pneus au croisement des principales artères de la ville. Ces manifestants, ce sont les acteurs des associations de la société civile auxquels se sont joints les militants des partis politiques, tant de l'opposition que de la majorité présidentielle. Même les partis ADH de Jean-Claude Baïndé et UCL de Henri Thomas Lokondo ont mis de côté leur guéguerre pour parler le même langage. La société civile a déplacé ses calicots au marché Lomata et de Mbandaka 2. Les messages de ces calicots reprennent, je cite, « On ne veut plus de Tony Bolamba comme gouverneur à l'Équateur, qu'il reste à Kinshasa. » Ce qui a révolté la classe politique et la société civile, indiquent les manifestants, les messages invitant Madame la vice-gouverneure de province à Kinshasa par le ministère de l'Intérieur et l'annonce du retour du gouverneur de province qui était bloqué jusque-là dans la capitale. Une situation qui est perçue par les manifestants comme une manœuvre dilatoire du pouvoir d'imposer ses gouverneurs à la population de l'Équateur. Après avoir fait passer leur message, la police est passée disperser les manifestants. Mbandaka, Dominique Wolombi Mungapangi, Radio Okapi.
Ouvrant ce registre élection par la ville de Lubumbashi, la CENI a publié mercredi dernier la liste de candidats gouvernants et vice-gouverneurs de provinces frappés par la vacance de poste. S'agissant de deux provinces à problème de l'ex-Katanga, 5 listes sont jugées recevables pour le Haut-Katanga contre 6 du Haut-Lomami. Notez qu'aucune femme n'est proposée comme candidate gouvernant. Nelly Kabena.
Dans la province du Haut-Lomami, 6 listes sont jugées recevables. Les candidats indépendants sont plus nombreux. C'est le cas de Gandou Diemo, l'actuel ministre provincial du budget, ou encore Émile Mota, l'ancien ministre de l'agriculture, dont Monga Banzatutu est le colistier. La majorité présidentielle aligne Jackson Mwenzemi. Ce dernier assure l'intérim du gouverneur de province. Dans le Haut-Katanga, seules 2 listes de candidats ont subi des aménagements. C'est le cas de la liste de la MP, dont Delphin Kasongo Kibale, qui était candidat vice-gouverneur avec Célestin Pandekapo comme gouverneur, a été remplacé par Jean Kalenga Mambepa. Il y a aussi la liste présentée par les partis politiques, l'UPCE, l'Union du peuple congolais engagé, et celle des 3 candidats indépendants. Parmi ces candidats, une femme, Thérèse Lukenge Kapwibe. Elle fut ministre du genre dans le gouvernement Moïse Katumbi Tshapwe. Pendant que la CENI publie la liste des candidatures reçues, l'avocat de Jean-Claude Kazimbe a déposé une plainte ce mercredi à la Cour constitutionnelle contre la CENI. Il voudrait que cette Cour déclare inconstitutionnel le calendrier de l'élection du gouverneur nord de la province du Haut-Katanga, car ce poste n'est pas vacant, a-t-il souligné. De Lubumbashi, Nelly Kabena, Radio Okapi.
Cap sur le Kasaï central, 2 jours après la décision de la Commission électorale nationale indépendante suspendant l'élection de gouverneur et vice-gouverneur au Kasaï central, Radio Okapi a fait balader son micro dans les rues de la ville de Kananga, chef-lieu de la province. Écoutez les différentes réactions de la population au micro de Blaise Ndongala.
Moi, je pense que la CENI est revenue à la raison. Pourquoi ? Parce que la procédure qui a été entamée pour que les élections soient organisées au Kassai central n'était pas une bonne procédure. Il faut que le gouverneur soit déchu par l'Assemblée provinciale, soit il faut que le gouverneur démissionne pour qu'on puisse organiser d'autres élections. Kandé n'avait jamais démissionné, il n'avait été déchu par l'Assemblée provinciale.
Mais dans tous les cas, le gouverneur qui viendra, c'était pour quelle fin ?
La CENI avait péché, ils ont trouvé mieux de respecter la loi. En République démocratique du Congo. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on a annulé les élections. On pense encore une fois de plus que le gouverneur de la province du Kassai central, qui est Alex Kandé, puisse encore une fois de plus revenir. C'est normal.
Le gouverneur que nous avons eu, M. Kandé, c'est à cause de lui, nous l'accusons, qu'on devait organiser les élections pour le gouverneur. Il s'est absenté, ça fait une année. 8 mois de...
Une procédure mal commencée finit encore mal. Alors, on comprend que la CENI a été instrumentalisée.
Pour rappel, la CENI avait annoncé la suspension de ce scrutin au Kassai central après que les deux candidats en course, Martin Kabuya et Crispin Kankondé, avaient retiré leur candidature. Élection toujours, le mouvement social pour le renouveau MR au Kassai central exige sans condition l'organisation des élections en décembre 2017. Son président fédéral, Denis Mukongo Mwale, l'a déclaré hier devant la presse à Kananga à la suite d'une marche du parti annulée par les maires de la ville. À l'occasion, il a annoncé qu'un préavis est lancé en direction de la CENI qui doit au plus vite publier le calendrier global des scrutins dans ce délai. Il est au micro de François Kadima.
Le MR a vu que la CENI est en train d'ajouter des années sur les années déterminées dans la Constitution. Le MR continue à demander à la CENI d'organiser les élections au mois de décembre conformément à l'accord signé le 31 décembre. Vous êtes dans le Kassai. Corneille Nanga, il a fait route. Bujima Ikanan, il a passé par Dibaya, il a passé par Dimbelenge, il est arrivé à Chimbulu. Nous devons connaître que les élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales vont se tenir quel jour. Ce n'est pas un secret pour nous dire que c'est le 20 décembre ou le 15 ou le 10 décembre. Non, ce n'est pas un secret.
Par ailleurs, le MR Kassai central plaide également pour le rapatriement du corps du leader de l'UDPS, Étienne Tshisekedi, en RDC. Économie à présent, le franc congolais se stabilise et s'apprécie sur le marché d'échange. Le taux est passé de 1720 francs depuis le week-end dernier à 1500 le dollar sur le marché parallèle à ces jours. Selon le gouverneur de la Banque centrale du Congo, cette embellie pourrait se maintenir dans la durée. Déogracias Mutombo a présidé hier à Kinshasa la réunion extraordinaire du comité des politiques monétaires de la BCC. Daniel Tambizoni nous donne les grandes lignes de la communication du gouverneur de la BCC à la presse à l'issue de cette rencontre.
Cette appréciation du franc congolais observée aujourd'hui est la résultante de l'action menée par l'autorité monétaire, dit Déogracias Mutombo. Cette action a consisté à faire pression sur les opérateurs miniers à rapatrier 40% de leurs recettes d'exportation d'un côté et de l'autre au gouvernement d'arrêter avec le déficit à partir du mois de juillet. Ce déficit avait avoisiné les 200 milliards de francs congolais au mois de juin. Le résultat obtenu du côté des miniers.
On est en train d'assister à de plus en plus de flux de devises dans ce sens, mais nous espérons que la plupart vont régulariser la situation et que l'économie va connaître une offre assez importante de devises. Du côté de la Banque centrale, nos rentrées en devises ont doublé. De juin à juillet, nous sommes à une moyenne de 46 millions mensuels, donc c'est déjà un bon signe.
Le gouvernement s'est lui aussi discipliné dans la gestion des finances publiques en réduisant son déficit. Le gouverneur de la Banque centrale a annoncé un train de mesures qui seront mises en œuvre pour lutter contre la fraude fiscale dans les postes frontières. Ceci pourrait permettre au trésor public de faire encore plus de recettes. Pour soutenir l'embellie du franc congolais sur le marché, la Banque centrale va vendre ce vendredi des devises aux banques commerciales. C'est une action pour contenir le besoin en devises des importateurs qui a lui aussi chuté de 79 à 29 millions de dollars américains le mois.
Toujours à ces sujets, la baisse du taux d'échange du dollar en francs congolais est aussi observée depuis hier sur le marché d'échange à Bukavu, dans le sud Kivu. Malgré cela, le prix des produits de première nécessité reste inchangé. Le taux affiché hier matin à la Banque centrale était de 1565 francs le dollar, alors que chez les cambistes, un dollar s'est négocié entre 1400 et 1200 francs la journée. Comment justifier une telle disparité? Les professeurs Augustin Moutabazi, économiste de formation, pensent que la BCC aurait injecté une importante quantité de devises dans toutes ses succursales tout en réduisant la masse monétaire des francs congolais. Il est déjà au téléphone par Jean Kassami.
Les biens francs congolais et les biens guinéens dollars, ça flambe sur le marché. Et là, la quantité respective de chaque monnaie joue. Dans le cas d'espèce, il y a une rareté très prononcée de dollars sur le marché monétaire congolais. Dans un premier temps, cette rareté était causée par la baisse des prix ou des coûts des principaux produits, des principales matières exportées par notre pays. La rareté des devises à cause de là s'est fait remarquer à cause notamment du risque politique. Il y a eu une demande supplémentaire de devises, pas pour besoin d'importer des marchandises, mais pour besoin de se protéger contre les risques politiques. Les citoyens ordinaires n'ont plus envie de garder des francs, de regarder sa richesse, une monnaie plus facile à malayer, à la limite une monnaie avec laquelle on peut traverser la frontière si le pire arrivait. On peut imaginer que dans cette euphorie, on a vu de nouveaux billets. Et il y a eu même des rumeurs, qu'il y aurait des billets de 50 000 francs, de 100 000 francs. Une information, qu'elle soit vraie ou fausse, ne pouvait qu'amplifier les anticipations.
Actualité Afrique Monde.
Nous commençons par le Rwanda, où plus de 6 millions de Rwandais sont attendus aux urnes ce vendredi pour l'élection présidentielle. Les Rwandais de la diaspora ont voté hier jeudi. Les présidents sortants Paul Kagame briguent un troisième mandat. Face à Paul Kagame, deux concurrents, Franck Habineza, président du seul parti d'opposition toléré dans le pays, le Parti démocratique vert, et Philippe Mpayimana, candidat indépendant. Ces derniers se plaignent du peu de temps dont ils ont disposé pour lever des fonds et faire campagne. Nous aurions voulu au moins 2 mois. Vers la fin de la campagne, le nombre de personnes à nos manifestations a beaucoup augmenté, assure notamment Jean-Claude Tezimana, secrétaire général du Parti Vert. Pour rappel, les 3 candidats ont eu 19 jours pour convaincre les électeurs. Ils ont sillonné les différentes régions du pays pour dévoiler leur programme politique. Franck Habineza, candidat du Parti démocratique vert, est convaincu de ses chances. En Gambie, plus de passeports diplomatiques pour Yahya Jammeh. Le gouvernement d'Adama Barrow a décidé hier jeudi de retirer à Yahya Jammeh son passeport diplomatique. L'ancien président gambien perd donc tous les privilèges que son pays accorde à certaines personnes de haut rang lors de leurs déplacements. La mesure confirmée par les ministères gambiens des Affaires étrangères touche aussi l'épouse de l'ex-président gambien en exil ainsi que ses 2 enfants. Au total, ce sont 271 membres du régime de Yahya Jammeh qui n'ont plus de passeport diplomatique. Au Malawi, les autorités du Malawi ont relocalisé hier jeudi 520 éléphants dans la réserve de Nkotakota au centre du pays. C'est l'une des plus importantes opérations de transfert d'éléphants jamais réalisées au Malawi dans cette réserve où ces pachydermes étaient quasiment décimés. Pour réussir cette opération, les responsables du transfert ont endormi les éléphants et les ont soulevés grâce à une grue. 2 pachydermes sont morts durant l'opération. Aux États-Unis, Trump furieux contre l'enquête russe qui s'accélère avec un grand jury. Il s'est déchaîné hier jeudi soir contre l'enquête sous l'ingérence présumée russe dans la présidentielle américaine de 2016 qui a franchi une étape vers des possibles poursuites pénales avec la constitution d'un grand jury rapporté par les médias américains. L'histoire russe est une fabrication totale, a lancé Donald Trump lors d'un meeting devant une foule de ses partisans en Virginie-Occidentale. La raison pour laquelle les démocrates ne parlent que de cette histoire russe totalement inventée et qui n'ont pas de messages, pas d'agenda et pas de vision. Selon le Wall Street Journal ainsi que le Washington Post et le New York Times, le procureur spécial Robert Mueller, qui enquête sur les accusations d'ingérence russe durant la campagne présidentielle de 2016 et des soupçons de collusion entre l'équipe du candidat Trump et Moscou. Au Venezuela, le président vénézuélien Nicolas Maduro doit inaugurer vendredi une assemblée constituante qui lui est tout acquise au milieu des polémiques sur sa légitimité et des contestations de l'opposition qui devait manifester à Caracas, faisant craindre de nouvelles violences. Le parquet général du Venezuela, dirigé par la procureure dissidente Luisa Ortega, a tenté hier jeudi de freiner la mise en place de cette constituante. Il a demandé à la justice d'annuler la séance inaugurale du lendemain. Cette demande du parquet, lancée après l'ouverture d'une enquête mercredi soir, se base sur la commission présumée des délits durant le processus électoral dimanche, a précisé sur Twitter le ministère public.